Et nous accueillons Nathalie au 3921. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je m'installe.
Oh. Oui.
Voilà, ça y est, je suis installée.
D'accord.
Oui.
Alors, vous nous appelez d'où Nathalie?
J'appelle de Dordogne.
Dordogne.
Près de, voilà, en Dordogne. Mais je voulais témoigner pour expliquer quand il y a un choc ou quand on a vraiment quelque chose de grave, la façon dont on peut s'en sortir et donc on peut sortir de cet état et tout ça. Voilà, j'avais envie de témoigner les dégâts surtout que peuvent faire des chocs violents, voilà.
D'accord. Alors, vous avez donc, je suppose, subi ce type de choc.
Oui.
Dans quelles circonstances, dites-moi?
En fait, il y a plus de 20 ans, j'ai divorcé et j'ai rencontré un Africain, un Peul, du Sénégal. Et je suis partie avec lui. On avait un projet pour faire un puits en Afrique. Et donc, je suis partie avec lui, une somme d'argent et tout ça. Et en fait, il y avait un ami qui nous disait toujours, mais non, mais pars pas, faut pas partir. Je me posais pas vraiment de questions, mais je trouvais ça bizarre. Et en fait, quand on est arrivé à l'aéroport à Roissy, en fait, c'était un clandestin.
Oui.
Enfin, il avait des faux papiers. Et ça a été vraiment l'horreur. Là, je pense que j'ai vraiment vécu, même lui, certes, lui aussi, mais on a vécu l'horreur et la violence
policière.
Policière, oui. Ça m'est difficile d'en parler parce que en plus j'ai encore peur d'en parler. C'est compliqué parce que donc on a passé nos passeports, vous savez. À l'aéroport, qu'on a nos passeports. Et il était vraiment. Il bougeait dans tous les sens et tout ça.
Il était nerveux.
Et je ne savais pas du tout qu'il avait des papiers, des faux papiers. Donc.
Il ne vous avait rien dit.
Non, je ne savais pas du tout.
Et vous partiez où, en fait?
Au Sénégal, en Casamance, dans son village.
D'accord.
Voilà, pour faire un puits. Et donc, quand on est passé à la police des frontières de l'air, donc on s'est fait arrêter, on s'est retrouvé à la PAF, quoi. Enfin,
oui,
c'est PAF,
oui.
Non, PAF.
Police des airs et des frontières.
Ouais, voilà. Et là, c'est l'horreur. Savoir où il y avait eu ses papiers. Alors moi, je suis tombée des nues, vraiment. Et la violence qui monte et tout ça. Il a rien dit. On nous a tapé.
Ah, on vous a tapé?
Oui. C'est pour ça. Pour moi, c'est délicat quand même. C'est peur de dire certaines choses. Oui.
Ah non, mais vous pouvez tout dire hein, là. C'est vraiment important même. On vous a. Alors que vous n'avez rien à voir avec ça.
C'est ce que je leur disais. Je leur disais, écoutez, je vais déposer plainte, moi. Je vais déposer plainte. Vous me tapez. Vous n'avez pas le droit. Moi, je suis en règle, j'ai mes papiers. Puis même, vous n'avez pas le droit de taper.
Qui que ce soit.
Bon, enfin, donc, qui que ce soit. Donc, on s'est fait molester. Et après, il est parti avec deux policiers. Je savais pas où il était.
Oui.
Il est parti. Et j'ai dit, je pars pas. Moi, je pars pas. Je peux pas partir dans ces conditions. C'est pas possible. Et il y avait un tel stress. J'avais l'impression d'être dans Midnight Express, là. Le film, c'était stressé. C'était horrible, horrible. Et ils ont dit, mais si, vous partez. Et je suis partie avec deux flics. Entre moi, il y avait deux agents, deux policiers qui me tenaient par le bras et qui m'ont mis dans l'avion. Non, mais c'est pas possible, je vais me réveiller. Et j'étais tellement dans un autre monde que j'ai même pas
réagi.
J'ai subi, quoi.
Oui.
Et donc,
ils vous ont obligé à partir au Sénégal.
Oui, ouais, ouais, Il me disait, ouais, ta gueule, enfin des injures, salope, on connaît ce que c'est, les noirs, enfin, mais horrible, mais
on connaît ce que c'est quoi? On connaît ce que c'est quoi?
Les noirs, oui, on connaît les blanches et les noirs.
Voilà.
Mais je dis, mais arrêtez, je ne vous permets pas de d'avoir ce discours. J'avais l'impression que c'était un autre monde, quoi. Donc, je suis montée dans l'avion. Seul. Et puis à l'hôtesse de l'air, on devait être reçu par son oncle. Et j'ai demandé à l'hôtesse de l'air un papier. Et avec mon rouge à lèvres, j'ai marqué le nom de la personne qui devait nous réceptionner parce que je connaissais personne. Donc je suis arrivée à Dakar avec mon carton là, comme les enfants à l'aéroport. Et bon, ça a duré. Et puis, j'ai vu son oncle qui est arrivé en me disant, mais il est où donc, j'ai expliqué brièvement. Et bon, il me dit, mais t'inquiète, ça va s'arranger. Mais je ne peux pas te loger tout de suite chez moi parce que j'ai mes épouses. Et donc, je vais te loger à Dakar, dans la fac de Dakar, la fac de lettres à Dakar.
D'accord. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, et puis on se retrouve tout de suite, d'accord ?
Oui, d'accord.
À tout de suite.
Oui.
Vous restez en ligne, hein ?
Oui, oui.
23h46 sur Europe 1, comme vient de le dire cette voix charmante. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et puis, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire au 739-21 ce soir. Beaucoup, beaucoup pour Janine et Valérie, beaucoup de SMS. Donc, merci pour votre soutien et ne vous inquiétez pas, je vous le promets, nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, de la suite des événements pour Janine et Valérie, puisqu'elles ont promis de nous donner des nouvelles. La rumeur est quelque chose qui intéresse beaucoup, mais pour l'instant, nous sommes avec Nathalie qui nous raconte cette histoire d'enfer de voyage avec son compagnon qui avait des faux papiers et qui lui finalement ne prend pas l'avion puisqu'il reste, si j'ai bien compris, dans les mains de cette charmante police des airs et des frontières, en tout cas ce jour-là. Je peux vous dire qu'ils sont pas tous comme ça.
J'ai voyagé depuis.
Oui, parce que vous êtes tombé vraiment sur des drôles de loustiques là pour ce
voilà. Tout à fait.
Et puis c'était en 92, vous m'avez dit. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Non, donc depuis, je pense que il y a des règles de surveillance sur ces fonctionnaires qui ne peut pas permettre ce type d'écart de langage et de comportement. Il est devenu quoi avant qu'on continue
En fait, il est. Je sais pas. Enfin, quand je suis, on a passé le voyage quand même ensemble dans sa famille en brousse. Enfin, donc, on s'est retrouvés. En Casamance, on a passé un mois vraiment dans la vie, vraiment, de brousse, quoi. J'ai trait les vaches et tout ça, que ça sera mis au monde un bébé. J'étais là, enfin, c'était
ça devait
vraiment
être super,
bon.
Non ?
C'était quand même super. Et donc, j'avais effacé ce moment, bon, noir. Enfin,
ah oui, noir,
moment,
l'autre, oui.
Oui, c'est ce qu'elle veut dire, ce moment un peu bon. Il dénotait. Et ensuite, disons que après, je suis revenue en France et on s'était dit, il refait ses papiers. J'ai mes papiers de divorce parce que je n'avais pas encore mes papiers de divorce. J'ai mes papiers de divorce et je reviendrai en Afrique et on se mariera, quoi. C'était ce projet-là.
C'était sérieux, dites donc, hein, quand même, tous les deux.
Oui, c'était sérieux, mais j'étais vraiment amoureuse, vraiment. Je l'aimais, oui, j'étais vraiment amoureuse.
Oui.
Et puis l'Afrique, pour moi, a toujours été quelque chose de mystique. J'ai toujours été attirée par ce continent, donc c'était vraiment un cocktail effervescent. Et donc, à Dakar, on s'est dit au revoir. Et puis, en se disant qu'on se reverrait, quoi. Et on a eu des échanges par téléphone et j'ai contracté le palud, j'ai eu le paludisme. J'ai été soignée et avec le traitement du palud, j'ai fait 27 arrêts cardiaques et un mois de coma.
Avec quel type?
L'alphan. C'était l'alphan qu'on utilise moins, même presque plus.
Oui.
Parce que bon, ça provoquait des problèmes, des arythmies cardiaques. Mmh. Et j'en étais bon l'objet. Et donc le jour où je suis tombée dans le coma, je l'ai eu au téléphone le soir. Et je n'avais plus de chauffage chez moi. Donc j'étais chez ma mère, heureusement. Et on devait aller manger chez des amis. Et je l'ai eu au téléphone. J'ai raccroché. Et je me sentais pas bien. Je me suis sentie mal. Et ma mère est arrivée à ce moment-là. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre. T'as des yeux bizarres. Et je lui dis, mais je m'en vais. J'ai mal. Je vais mourir. Je me sens, je m'étouffe. Et je suis tombée en coma. Donc, les pompiers, blablabla. Oui. Et en fait, ils m'ont déchoqué toute la nuit, 27 fois, même plus, un mois de coma. Et quand je suis sortie du coma, d'abord, j'étais aveugle, j'avais tout côté gauche paralysé, j'avais pu lire, écrire, un légume, quoi, enfin...
Une sorte d'amnésie, donc.
Ah, une amnésie totale, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai complètement zappé mon histoire avec ce garçon.
Ah oui?
J'en suis restée, moi, à mon ex-mari. Et quand j'ai commencé à réaliser, à récupérer, à pouvoir parler, et puis, dire mes émotions et exprimer, en fait, je ne parlais pas du tout de lui. Bon, mais ma famille a commencé à trouver ça bizarre,
curieux,
parce que les gens et mes amis les connaissaient. Et puis après, donc je n'en parlais pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais pourquoi, mon ex-mari s'appelait Jean-Marc, j'ai dit, mais pourquoi Jean-Marc n'est pas là? Mais il faut que tu retrouves la mémoire toute seule, faut que tu fasses le travail. Mais je dis, mais c'est quoi? Mais pourquoi? Il est mort. Moi, je me suis dit, on a eu un accident.
Oui.
Et il est mort, quoi. Et personne ne veut m'annoncer la nouvelle. En plus, bon, j'avais pas de nouvelles de lui. Et je me disais, mais bon, je lui dis, je suis le bas quand même en sucre. Annoncez, dites-moi la vérité. Et puis un soir, j'ai une amie qui est venue et je lui ai dit, écoute, moi je deviens folle, quoi. Je comprends pas tous ces mystères. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il est en prison, on a fait un braquage. Mais je m'imaginais plein de choses. Et cette amie m'a dit, mais non, mais t'étais avec quelqu'un qui faisait de la musique. Je dis, mais quoi? Mais je me souvenais plus du tout de lui. Mais comment? Mais il était comment? Mais on s'est rencontrés comment? Et je me rappelais pas. Je me suis pas rappelée pendant des semaines.
Oui.
J'ai une totale amnésie.
Quels souvenirs vous gardez des sensations que vous aviez lorsque vous réalisiez? Alors, est-ce que vous réalisiez? Non, mais c'est compliqué, en fait. J'essaie d'être le plus précis possible dans ma question. Lorsque, en fait, vous vous rendiez compte par moment que, par exemple, Jean-Marc n'était pas là,
oui.
et que vous aviez raté un bout de
un épisode,
oui, un épisode, quel sentiment vous aviez?
C'était
très angoissant. Hein,
c'était très angoissant. Je me disais, mais pourquoi, à la limite, il est mort, pourquoi on ne le dit pas? Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état. Parce que quand j'ai mis du temps à y revoir, à pouvoir me servir de mon corps, je ne pouvais pas, je ne savais plus me laver les dents, m'habiller, je ne savais plus ni lire ni écrire. Je me disais, mais comment, pourquoi, et pourquoi on ne me dit pas la vérité? Pourquoi? Mais c'était l'incompréhension. Et pendant la nuit, j'essayais de refaire le fil. Et le fil s'arrêtait à mon ex-mari, quoi.
Oui. Vous aviez une trentaine d'années, hein, c'est ça, à l'époque?
J'avais 30 ans,
ouais. Oui.
Ouais. Et je ne comprenais pas, d'abord, ce mystère. Et le mystère, en fait, les médecins disaient qu'il fallait pas annoncer les choses brutalement. Ça pouvait provoquer, comme j'avais eu quand même un choc, même au niveau du cerveau, j'ai eu une anoxie cérébrale importante. Donc, il fallait y aller mollo et tout ça. Donc, c'était l'horreur, parce que le néant, vous vous réveillez. D'abord, j'étais dans un sale état et je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Ah, ça c'est brume. Je suis à moitié un légume et je ne sais pas comment et pourquoi surtout. Voilà, pas d'explication. Et ça dure.
Et
Personne ne le dit.
vous avez mis combien de temps à remonter la pente?
3 ans.
3 ans.
J'ai resté 3 ans à l'hôpital. Pour tout réapprendre. Ouais, de 92 à 95. Bon, je suis restée à Pellegrin, puis après je suis restée presque un an à Pellegrin, puis après je suis allée en plusieurs maisons de rééducation pour tout réapprendre, quoi.
Et est-ce que
Tout réapprendre.
cet homme vous a attendu? Est-ce qu'il vous a accompagné durant tout ça?
Ah, non, alors justement, donc à un moment donné, cet ami, mon ami qui venait le soir, m'a dit, écoute, t'étais avec cette personne, je veux pas dire son prénom, avec cette personne, et puis c'est passé comme ça, vous êtes parti en Afrique, et je suis tombée des nues, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, l'aéroport, parce qu'elle était au courant. Je lui dis, mais je vis une double vie, quoi. C'est la quatrième dimension. Je me suis dit, mais je vais me réveiller et je vais revenir dans une vie normale, quoi.
Oui.
C'est pas possible. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Un jour, elle est revenue un soir et elle m'a dit, mais il avait un béret violet. Un béret violet. Et je dis, ah ouais, ben bon, ouais, alors bon, je dis, bon, c'est vrai que pour les blagues, ils ont souvent des bérets, enfin, ça m'énervait à force, je me
Oui,
disais,
oui.
bon, j'avais aucun souvenir de lui, de cette histoire. Et puis dans la nuit, ah, oh, ça fait comme un kaléidoscope, tic, tic, tic.
C'est revenu tout doux,
Je
c'est
voyais,
revenu d'un seul coup?
bon, pas d'un seul coup, je voyais un bout de son visage, et puis j'entendais la musique, parce qu'il y avait des concerts, et ça s'est revenu petit à petit. Petit à petit, et jusqu'au moment où je me suis rappelé de lui. Et puis Chantal m'aidait le soir. Alors on n'en parlait à personne. Personne de ma famille n'était pas au courant. Je
Oui.
ne savais pas comment il m'avait caché pour me protéger, hein, certainement. C'était notre secret. Et le soir, elle venait, et puis je décortiquais le puzzle
Mais
jusqu'à ce
lui, quand
que.
même, il nous a pas du tout
Non,
donné de nouvelles.
alors il y avait, moi je n'avais pas de nouvelles. Et il avait appelé ma mère et qui faisait le blocage, quoi.
Ah oui, d'accord.
Et voilà.
Il a
Et par
essayé quand
contre,
même.
il a essayé, oui. Oui, il a essayé. Mais par contre, quand je me suis rappelée de lui, c'était tellement confus. Je ne savais pas si j'ai. Parce que c'était quelqu'un de nouveau.
Oui, bien
Quelqu'un
sûr,
que
bien
je
sûr,
découvrais.
bien sûr. C'est ça qui doit être très troublant, très troublant.
Ah ouais, voilà, en fait, je connaissais ce garçon au travers de
De ce qu'on vous
ce que
racontait.
l'on m'a raconté.
Oui,
Ouais. Donc c'était
ouais.
complètement abstrait et irréel, quoi. Et donc, après, disons que je l'ai revu bien plus tard. Entre-temps, j'avais rencontré mon mari, là, actuel.
Oui.
Ça me faisait peur. J'ai toujours eu peur de le revoir.
Oui,
Ça me fait peur.
on peut comprendre en tout cas qu'un tel épisode soit très angoissant à partir du moment où on n'arrive pas à
Refaire
remettre.
l'histoire.
Oui, et puis surtout les sentiments qui accompagnaient cette
Ben
histoire.
oui,
On va
ouais.
marquer une pause pour écouter
Oui.
l'info sur Europe 1 et puis on
Oui,
conclura ensemble après le journal de
d'accord.
minuit, d'accord? À tout de suite.
Vous aussi,
Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Nathalie qui nous parle d'un épisode amnésique qui lui est arrivé en 92. Nous en étions, Nathalie a évoqué donc cet homme avec qui vous aviez décidé de faire votre vie. Et finalement, cet homme tombé dans l'oubli totalement.
Tout à fait.
À partir de... Allez-y, dites-moi quoi.
Non, allez-y.
Non, je voulais savoir à partir de quand vous réalisez que justement il y avait un projet de vie avec cet homme. Et est-ce que c'est redevenu concret à un moment dans votre esprit?
Ah oui. Disons qu'à force de refaire le remonter le puzzle et tout ça avec des événements, avec j'ai reconstruit l'histoire. Mais justement, ça me replongeait. Plus j'avançais, plus j'étais confrontée à aux choses difficiles, par exemple à l'aéroport et tout ça. Tout se remettait en place. Je revivais encore une fois ces événements.
Oui.
Et j'étais à l'hôpital et c'était vraiment c'était douloureux, quoi. Mais c'était vraiment confus parce que en fait je me rappelais de ce garçon, mais je ne savais plus si c'était bien, si c'était pas bien.
Ouais, c'était vraiment confus.
Ouais. Et du coup je savais plus si comment je pouvais apprécier cette histoire. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur de le revoir. Après, disons, petit à petit, je me suis rappelée donc de lui. Et j'ai eu envie de le revoir, mais c'était très compliqué, très mitigé, parce qu'il me faisait peur. Ça me provoquait des angoisses.
Des angoisses, oui. Ouais.
Et donc, j'avais envie de le revoir pour d'abord avoir une explication et à la fois ne plus le revoir. Et en fait, je l'ai revu une fois. C'était bref. On s'est vu brièvement parce qu'il est revenu en France. On s'est croisés. Et c'est un martyr pour moi. Ça fait remonter trop de choses.
Ce qui est finalement terrible hein, dans ces épisodes d'amnésie comme ça, c'est justement ce passé qui nous rattrape. Je vous dis ça parce que j'avais rencontré il y a quelques années un homme qui avait vécu une longue amnésie comme celle-là et il avait été obligé de reconstruire avec ses deux enfants, sa femme, ses parents, et il me disait combien il était angoissant pour lui qu'on lui montre des photos. Parce que les siens ne cessaient de lui montrer des photos en lui disant « Mais tu te rappelles pas de ça ?» Et ça, c'était très, très angoissant pour lui, parce que non, il ne se souvenait absolument pas.
Alors moi, c'est pas forcément le fait de plus me rappeler, c'est pas l'amnésie. C'est la violence de tout ce qui s'est passé, surtout à l'aéroport. Moi, ça m'a traumatisée, vraiment. Et je pense que cette amnésie, elle vient de là. C'est comme je n'ai pas voulu me rappeler de cet épisode. Je l'assimile à cette amnésie, à ce choc, puisque je me rappelais de mon ex-mari, mais pas de ce compagnon que j'avais quitté en amoureux, quoi.
Oui.
Mais ça, c'est fou. C'est qu'on est amoureux, on se quitte, et je ne me rappelle plus de lui, c'est le néant. Comment je peux gérer ces sentiments? Comment je peux gérer cette histoire?
Oui, c'est terrible, terrible.
Donc après, on l'a reconstruit. D'ailleurs, j'ai écrit un livre pour essayer de vraiment, ça fait 20 ans, mais il faut que je finisse ce bouquin pour finir cette histoire, parce que je n'arrive pas à la terminer. Je n'ai plus de sentiments pour lui. Et ça a été confus longtemps.
Oui,
j'ai eu le sentiment aussi parce que j'ai refait ma vie, que j'ai un enfant, enfin un garçon de 20 ans. J'ai tourné la page.
Oui.
Mais il y a quand même un truc. Disons que j'ai subi ça.
Qu'est-ce qui est perturbant, en fait ? Est-ce que c'est ce sentiment de... En tout cas, l'idée de se dire... Voilà, je regarde, j'ai fait mon garçon de 20 ans, vous êtes marié, vous avez refait votre vie, mais finalement, ma vie aurait pu être tout à fait autre chose sans ça. Est-ce que c'est ça qui est angoissant ?
Non, c'est pas ça, non. Parce que je sais tourner les pages du livre. Non, ce qu'il y a, c'est que ça m'a laissé des séquelles quand même. Ça me rappelle à l'ordre, j'ai du mal à me repérer, j'ai du mal à voyager. Quand je me retrouve dans un aéroport, ça me stresse, c'est horrible. Je ne me repère pas dans un lieu. J'ai des séquelles encore. J'oublie plein de choses. J'ai du mal des fois à m'habiller encore. Il y a des choses qui me... J'écris comme si une horreur. Alors que j'avais une écriture très ronde, j'écris mal. J'ai du mal à écrire, donc ça peut avoir l'ordi, mais... Il y a des choses qui, voilà, c'est toujours présent quand même. Et donc, ça me c'est un peu amer, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ouais.
Bon.
Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi j'ai peur quand je pense à cette histoire, ça me fait peur.
Oh, ça vous fait peur.
J'ai fait une thérapie, ouais. J'ai fait des thérapies, mais. Mais bon.
Mais peut-être que ce qui vous fait peur et qui vous angoisse, c'est au même titre que lorsqu'on a peur du vide, lorsqu'on a peur du temps, lorsqu'on a peur de l'infini. Vous voyez, toutes ces idées qui nous écrasent, qui peuvent nous faire étouffer, parce que on n'a pas de contrôle dessus. Hein
vous êtes
peut-être. Est-ce cela ? C'est vouloir contrôler le plus de choses possible.
Oui, voilà, c'est ça. C'est dans en contrôle, et puis la vie, il y a des choses difficiles.
Ah oui, et la vie, c'est pas le contrôle, pas tout le temps.
C'est pas le contrôle. Mon frère s'est suicidé il y a 7 ans, c'était lourd. Donc, mon mari a un cancer des poumons métastasé au cerveau. C'est lourd, disons que c'est difficile de... C'est des bosses.
Ouais,
mais bon, j'ai la pêche, hein. Mm-hmm. Mais
parce que vous savez, la vie est comme ça. Elle est magnifique.
Oui, c'est la vie, c'est comme ça.
Elle est magnifique en même temps qu'elle est redoutable.
Hein. Tout à fait. Et quand il y a un moment où il y a un blanc, on n'a pas de prise sur l'histoire. C'est difficile après de reconstruire, quoi. Je me suis reconstruite. En fait, je suis partie avec quelqu'un dont j'étais amoureuse. Et l'histoire, elle c'est pas fini, quoi. C'est fou.
Ouais, c'est fou.
Ouais, voilà. Donc, je n'ai pas revu ce garçon. Je n'ai plus de sentiments. Mais j'aurais aimé que ça se termine et que je puisse lui dire en face, si, remarquez, au téléphone, je l'ai eu une fois, il y a quelques temps, et ça m'a fait un choc. Il a retrouvé mon numéro, il m'a appelé et il m'a dit « Nathalie ». Et j'ai reconnu sa voix. Oh, ça m'a fait peur, c'est pour ça qu'il y a un truc, hein, c'est fou. Et j'ai hurlé, j'ai dit « Laisse-moi, fous-moi la paix », mais c'était démesuré. Et j'ai raccroché. Et là, je me suis dit « Il faut vraiment que je travaille là-dessus, quoi. »
Oui, voilà. Et alors, quel type de travail ? C'est particulier, hein, ce travail.
J'ai fait l'hypnose, j'ai fait une thérapie. Mais bon, ça, je crois que j'arriverai, quand je vais finir le dernier mot de mon bouquin, je dirai, allez,
tournez
la page. Je reconstruis l'histoire.
Les vôtres sont au courant de tout cela ? Vous arrivez à partager cela, ou c'est compliqué ?
Non, c'est pas compliqué. J'en parle avec. Par contre, je n'ai plus de photos, j'ai plus rien, j'ai tout jeté, même en Afrique. Je regrette, hein. Quand j'étais en brousse avec sa famille, je regrette. J'ai tout jeté. J'ai tout fait brûler. symbolique. Ouais. J'ai tout fait brûler.
Mais oui, parce qu'il fallait faire le vide à un moment, à ce moment-là. Voilà. Ouais. C'était nécessaire, je pense.
Oui, c'était nécessaire. Mais bon, j'en parle. Hein. Mon fils est au courant, mon mari, bien sûr. J'en parle. Mais je voudrais arriver à voilà vraiment mettre le dernier mot sur cette histoire, quoi. Parce que c'est quand même copieux comme.
C'est copieux.
Mais
vous, c'est copieux, mais vous allez. Je sens que vous allez y arriver parce que
on sent que
tout ça a beaucoup évolué durant ces années et. Ouais. Et que vous vous rapprochez.
Et oui, et d'ailleurs, je peux dire encore un mot.
Bien sûr.
J'ai toujours aimé, c'était très drôle. L'Afrique, c'était comme dans mes tripes. Je me disais, oh, je suis née en Afrique. Enfin, il y a quelque chose vraiment. Et je me disais toujours, il faut que je trouve la réponse en Afrique.
Oui.
J'ai trouvé vraiment. Je suis allée jusqu'au bout. Mmh. Et depuis cette histoire, bah, c'est fini, quoi. Parce que quand j'étais petite fille, quand j'entendais des sons africains, oh, ça me prenait, même petite fille, hein, ça me prenait aux tripes. J'étais vraiment les odeurs. J'avais l'impression de retrouver. C'était comme dans mes cellules. Et après cette histoire, c'est fini. C'est nettoyé. C'est mon karma.
Et puis, pour qui ne connaît pas l'Afrique noire, qui n'est jamais allé là-bas, moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller, il y a quelque chose là-bas d'unique et qui passe, c'est quelque chose
c'est magique, qui se joue avec
l'univers là-bas, en fait.
Exactement.
Ce continent est habité.
On est connecté.
Ouais. Connecté, exactement.
C'est vraiment.
Je garde un souvenir, ça fait un moment que j'y suis allé. Hein. J'ai eu la chance d'aller en...
Et vous étiez dans quel pays ?
J'étais au Sénégal et j'étais en Sierra Leone.
Ah oui,
J'ai eu la chance de connaître la Sierra Leone avant la guerre. Et je me souviens des sensations que j'ai eues à chaque fois que j'ai posé le pied sur le continent africain. Mais le Maroc me fait la même chose, vous savez.
Ma belle-sœur est marocaine et... J'y vais, mais ça ne me fait pas pareil.
Mmh. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose.
Ça n'est pas la même chose.
Mais ça n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose.
En plus, son père était marabout, mais vous savez, il y a des castes. Ils étaient marabouts à Dakar. Et toute cette magie, moi, ça m'a toujours attirée. Donc, j'étais vraiment dans le contexte. Mais c'est vrai que l'Afrique, il y a un truc... Et des énergies particulières.
Oui, mystique.
Mais complètement mystique, oui. Et faut connaître pour sentir ça.
Mais qui sait, vous savez, Nathalie, peut-être aurez-vous besoin d'un dernier voyage là-bas pour boucler la boucle. Hein. J'y pense me traverse.
Oui, peut-être, mais le problème, c'est... Non, disons que j'ai peur aussi. Je ne peux pas rattraper le palu parce que ça serait quand même bien pour me soigner. Mais c'est vraiment... oui, mais j'y ai pensé. Mais alors mon mari me dit, mais non, mais c'est bon, tu ne peux pas faire le coup. Mais oui, peut-être. Déjà, finir mon histoire, ce bouquin, pour moi, ça sera tourner la page, enfin, cette page-là. Mais c'est vrai que l'Afrique, j'en parlerai pendant des heures parce que des odeurs et tout. Les gens, tout passe par.
On dit souvent que c'est le berceau de l'humanité, mais ce n'est pas pour rien.
À Dakar, la faune, les ethnies.
Je pense qu'on a donné envie à tout un tas de personnes de connaître l'Afrique.
Oui, vraiment. Déjà par ces gens,
Écoutez, très bien. En tout cas, portez-vous bien. Bravo pour. Ce témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Écoutez, c'est parfait, moi aussi. Passez une bonne nuit, ma chère.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.